nouveaux et les anciens. Et nous allons essayer d'avoir une bonne année au niveau de la recherche métaphysique. C'est pas commode. Ceux qui ont déjà fait un peu de métaphysique le savent. C'est sûrement un des cours les plus difficiles, mais c'est aussi peut-être un des cours qui apporte le plus quand on y entre un peu. Ça demande un travail personnel. Ça, c'est sûr. Si on ne fait qu'écouter les cours, c'est pas suffisant. Il faut avoir autant que possible un travail personnel. Alors là, ça dépend de chacun d'entre vous. Pour les nouveaux, il y a l'assistant. Il faut qu'il se montre pour qu'ils le connaissent tous et pour qu'ils voient bien. Alors, vous avez indiqué, je crois, les cours que vous aviez. Parce que c'est bon de faire une espèce de complémentarité entre les cours ici et puis le point de vue des cours qui sont donnés par l'assistant et qui doivent compléter, qui doivent permettre qu'il y ait quelqu'un de plus proche de vous. Parce que c'est toujours la difficulté, c'est que faire de la philosophie demanderait toujours un contact personnel avec celui qui enseigne. Je crois que c'est indispensable. Ça ne peut pas se faire entièrement, puisque vous êtes nombreux. Alors, il y a une médiation. Et la médiation se fait par l'assistant qui doit être là pour aider. Et quand l'assistant est débordé, il me le dit. Mais comme il n'y a pas grand danger qu'il soit débordé, il pourra aller assez loin. Alors, nous pouvons là travailler dans le même esprit. C'est sûr, il y a un esprit philosophique, ça je suis tout à fait d'accord. Il y a plusieurs esprits philosophiques. Alors, ceux qui sont dans le même esprit entrent, ceux qui sont dans un autre esprit, ils ont plus de peine d'entrer, c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents, c'est autre chose. Je vous ai déjà raconté cette petite histoire que je crois très, très importante. C'était le bon vieux Père Mandonné qui a été ici professeur d'histoire de la philosophie, d'histoire de la philosophie médiévale, qui est un de ceux qui ont vraiment pioché, même avant Gilson. Vraiment, Mandonné a été à la tête, Gilson est venu après, et Mandonné avait une espèce d'intelligence très extraordinaire au point de vue de ce que représentait l'histoire médiévale, et de son temps, c'était vraiment un pionnier. Alors que le Moyen-Âge était le temps des ténèbres, parce que c'était le temps de la foi, alors c'était le temps des ténèbres. On a vu comment le Père Mandonné a creusé beaucoup de son temps, a découvert toutes les grandes lignes qu'on a fait répéter après, mais le mérite du Père Mandonné, c'était de découvrir ça. Donc c'était un chercheur, le Père Mandonné, d'une façon très, très étonnante. Et il a terminé ses jours au Solchoir, où je faisais mes études. Et alors, nous avions non pas un assistant, mais nous avions ce qu'on appelait la goutte de lait métaphysique, philosophique. Il y avait le beefsteak qui était donné au cours principal, et puis il y avait la goutte de lait pour assaisonner. C'était nécessaire, parce que ce n'était pas toujours commode. Alors, le Père Mandonné nous faisait la goutte de lait. Et il devait normalement nous faire un cours de méthodologie historique. Parce qu'il avait fait, produit une petite plaquette de méthodologie historique, qui est admirable du reste. C'est la meilleure méthodologie historique qui a été écrite. Et alors le Père Mandonné devait nous expliquer ça comme goutte de lait, méthodologie historique. Vous voyez, c'était tout à fait merveilleux. Alors on en a vu trois lignes pendant toute l'année. Parce qu'il commençait avec toujours avec sa méthodologie, et puis il commençait, puis au bout de 2 minutes, il enlevait ses lunettes, et puis il commençait à bavarder sur tout ce qu'il avait vécu. Ce qui était merveilleux, du reste, c'était une chose très extraordinaire, tout ce qu'il avait vécu à Fribourg. J'avais eu des histoires de Fribourg bien avant, des histoires de Fribourg qui étaient très intéressantes, parce que c'était pris par le Père Mandonné, vu à travers le Père Mandonné. Ils avaient entre autres raconté la première histoire qu'il a eue en venant à Fribourg dans le Valais. Ils ne connaissaient pas ce que c'était que le petit fendant. Hein. Ils ne connaissaient pas ce que c'était. Alors il se promenait, fatigué. Il entre dans un endroit où il peut se rafraîchir un peu, une pinte. Et puis il demande s'il y a quelque chose à boire. Alors on lui donne le petit fendant. Je crois qu'il était 11h du matin. Puis il trouve ça délicieux. Il trouve ça merveilleux. Il disait, mais ça se boit comme de l'eau fraîche. Puis il se met à boire. La personne qui lui servait le regardait du coin. Elle voyait bien. Il était en dominicain, tu vois. Elle voyait bien qu'il était. Et puis au bout d'un certain temps qu'il était là, il veut se lever. Puis il n'arrive plus à se lever. La fatigue, le fendant avait agi d'une manière telle qu'il n'arrivait plus à se lever. Alors, la brave personne qui était là dit, mon père, ne vous inquiétez pas. C'est parce que vous n'avez pas pris du pain, du jambon, du fromage. Je vais vous chercher ça. Vous allez manger tout ça. Puis après, vous verrez que ça ira très bien. Et puis c'est ce qui s'était passé. C'était votre philosophie. La philosophie sur le fendant, qu'il ne fallait pas le prendre trop à jeun et en prendre trop le matin. Ça, c'était sagesse. Et alors, le Père Mandonné disait cette chose que j'ai retenue. Vous êtes tous intelligents. Ça se retient toute sa vie. C'est un bon principe. Vous êtes tous intelligents. Ça ne veut pas dire qu'on a un nous séparé qui est le même pour tous. Non, vous êtes tous intelligents. Mais vous aurez des professeurs qui n'auront pas nécessairement la même forme d'intelligence que vous. Elle voulait nous montrer que l'intelligence était analogique. Vous n'aurez pas des professeurs qui ont la même forme d'intelligence que vous. Alors, si vous avez des professeurs qui n'ont pas la même forme d'intelligence que vous, ils diront, j'ai un imbécile dans la classe, il ne comprend rien. Vous inquiétez pas, ça veut dire tout simplement que le professeur n'a pas la même forme d'intelligence que vous. C'est très agréable de se dire ça, vous voyez ? C'est reposant. Et si, au contraire, vous avez un professeur qui a la même forme d'intelligence que vous, il dira, j'ai un génie dans ma classe. Vous inquiétez pas, ça veut dire tout simplement que vous avez la même forme d'intelligence que votre professeur. Vous n'êtes pas plus génial qu'un autre, mais vous avez la même forme d'intelligence que votre professeur. C'est heureux, vous êtes nés sous la même planète, n'est-ce pas ? Et alors il y a quelque chose de commun. Et c'est vrai, il y a des familles intellectuelles, ça vous verrez. Il y a des familles de l'intelligence. Il y a Platon et Aristote, c'est déjà, je crois, deux grandes familles. Alors, il y a eu des petits après, hein, et des quantités de petits. Et il y a eu des néos et des néos et des néos. Et alors, des retours. Mais au fond, c'est le renouvellement constamment, Heidegger dit, toute la philosophie occidentale est une paraphrase de Platon. Et c'est très vrai, d'une certaine manière. Platon est une source, Aristote en est une autre, Parménide en est une autre, si on veut aller. Alors on retrouve des familles, et je crois que ce qui est très important, c'est de découvrir progressivement. Il ne faut pas trop sater le pouls tout le temps, n'est-ce pas, en disant « je n'ai pas encore découvert mon âme sœur parmi les philosophes ». Je suis donc d'une originalité inouïe et je vais inventer un nouveau système philosophique qui n'a pas encore été inventé. Il ne faut pas se dire ça parce que ce n'est pas tout à fait juste. Je crois, beaucoup de choses ont été dites. Mais ce n'est pas parce que ça a été dit que ça ne doit pas être revécu, repensé. Mais c'est important, je crois, d'arriver à discerner un peu la forme d'intelligence que nous avons. Parce que c'est quelque chose de très profond, ça. Les plis profonds de l'intelligence qui dépendent chacun de nous de la formation. Vous voyez, quelqu'un qui s'est jeté dans les études au point de vue mathématique, par exemple. Il y a des gens qui ont la bosse mathématique et qui n'aiment que les mathématiques. Ben, il est évident que ça fait une orientation particulière. Il y en a qui sont uniquement des poètes. Ils n'ont rien compris aux mathématiques. Ils ont trouvé que c'était assommant. Ils ont une forme plus littéraire, plus poétique. Ça forme une autre forme d'intelligence. Et puis il y en a qui sont d'un réalisme extraordinaire et qui veulent tout le temps revenir à ce qu'ils considèrent comme ce qu'il y a de plus réel. Alors, ça fait encore d'autres formes d'intelligence. Je crois que c'est très important au point de vue philosophique, parce qu'au fond, c'est le propre de la philosophie. La philosophie, c'est cultiver ce qu'il y a de plus profond dans notre nous, dans notre esprit, dans notre intelligence, dans notre raison. C'est d'essayer de découvrir ce qu'il y a de plus profond dans la prise de conscience que nous avons, cette capacité de penser. C'est pas si commode que ça de savoir ce que c'est que penser. Et plus on avance, plus on voit que c'est difficile de savoir ce que c'est que penser. La sensation, ça en arrive à peu près. Et alors les limites entre la sensation et la pensée, le passage entre la sensation, ce que je vois, ce que je pense, ce que j'imagine, c'est très difficile tous ces domaines-là. Il ne faut pas trop vite classifier. Et pourtant, on est bien obligé d'analyser. Mais l'analyse n'est pas la classification. C'est quelque chose de plus profond. Alors, il ne faut pas, au nom d'une classification extérieure, rejeter l'analyse. Mais il y a des gens qui analysent plus facilement et d'autres qui aiment mieux rester uniquement dans le descriptif. Je crois que c'est très important, au point de vue philosophique, de découvrir assez vite ce que représente ce que nous aimons le plus au point de vue philosophique. Vous voyez, et c'est là où l'histoire de la philosophie apporte toujours quelque chose. Nous ne sommes pas les premiers à philosopher. Il y a avant nous des quantités de personnes qui ont philosophé. Et alors il est bon de trouver comme les amis, nos amis au point de vue philosophique. Alors nos amis, évidemment, nous définissent un tout petit peu, puisqu'au fond, ils sont déjà avant nous. Alors il y en aura ceux qui seront dans une perspective donnée. Platon, le néoplatonisme, c'est une grande famille. Platon et le néoplatonisme, c'est évident que c'est une grande famille. Puis il y a une autre famille, Aristote. Alors saint Thomas le mettra des deux côtés. Il y aura ceux qui interprétons saint Thomas en néoplatonicien et ceux qui interprétons saint Thomas en aristotélicien. L'avantage, c'est que saint Thomas était les deux. Alors on pourra toujours trouver, n'est-ce pas ? D'une certaine manière, parce qu'il est théologien, saint Thomas. Donc il est plus que philosophe. Et le théologien a le droit de faire des synthèses que le philosophe n'a pas le droit de faire. C'est très curieux. Parce que la foi dépasse. Alors saint Thomas, en tant que croyant, en tant qu'illuminé par la foi, peut arriver à prendre son bien du côté d'Aristote et du côté de Platon. Et il fait une synthèse qui est propre à lui. Nous y reviendrons à ça, parce que c'est très intéressant de voir ça. Voir la manière dont saint Thomas a absorbé Aristote. La manière dont il a absorbé Platon et le néoplatonisme. Et il y a quelque chose de sui generis. Mais saint Thomas est un théologien. Alors est-ce que sa synthèse est-elle possible au plan philosophique? Il ne s'agit pas de confondre, il s'agit de comprendre. Il y a des amis qui sont des théologiens, puis il y a des philosophes qui sont des amis. Et il faut savoir. Il faut savoir ce que c'est que la droite et ce que c'est que la gauche. Ça ne veut pas dire que les philosophes sont à gauche et que les théologiens sont à droite, mais ça veut dire que de fait, c'est autre chose, se mettre à l'école d'un théologien, se mettre à l'école d'un philosophe. Ce n'est pas la même chose. On peut se mettre à l'école d'un théologien, si on veut devenir théologien, se mettre à l'école d'un philosophe, si on veut devenir philosophe, et comprendre qu'il y a des liens. L'histoire de la philosophie montre ensuite comment la philosophie, notre philosophie occidentale, s'est décrochée des théologiens. Il y a eu un moment de crise où les philosophes ont voulu redevenir philosophes, parce qu'ils avaient très peur des théologiens, et que les théologiens ont toujours un per modum auctoritatis, qui est très très dangereux, n'est-ce pas ? Les théologiens aiment l'autorité, pas d'aujourd'hui, mais les théologiens d'avant. Les théologiens d'avant aiment l'autorité, les théologiens d'aujourd'hui, c'est autre chose. Alors, je ne sais plus s'ils sont encore théologiens, ça c'est différent, parce que de fait, ils ne veulent pas être philosophes, et il ferait mieux d'être purement philosophe. S'ils découvraient peut-être que c'est cela qu'ils cherchent, ils seraient plus à l'aise. Beaucoup de théologiens d'aujourd'hui feraient beaucoup mieux d'être philosophes. Beaucoup mieux. Parce qu'ils seraient plus à l'aise. Et ils seraient des philosophes, ils seraient des chercheurs. et de bons chercheurs, des chercheurs de la philosophie religieuse, des chercheurs de tel ou tel domaine particulier. Le théologien, il part de la foi. Donc c'est tout de suite quelque chose d'autre. De fait, notre monde occidental, je dirais notre culture occidentale, est faite non seulement de tous les grands courants de la philosophie grecque, qui sont déjà très multiples et très divers, ils sont faits en plus de ça, de tous les courants théologiques. Et les courants théologiques du Moyen-Âge, vous le savez bien, sont multiples. Il n'y en a pas qu'un. Il y a des dominantes, mais ils sont multiples. Puis après, il y a le décrochage philosophique, où les philosophes veulent redécouvrir leur indépendance. Et alors, à ce moment-là, on voit une très grande originalité. De sorte que je crois que chacun d'entre nous, nous pouvons assez facilement trouver des amis. C'est bon. C'est bon de trouver des amis. Il ne faut pas les choisir a priori. Il faut les découvrir. Et on a des amis philosophes avec qui on philosophe. On a des amis théologiens avec qui on aime de rester. On peut en avoir plusieurs, hein, c'est pas exclu. C'est pas exclu d'avoir plusieurs amis philosophes et plusieurs amis théologiens. C'est même bon. Et à partir de là, on essaie, non pas de faire une originalité pour une originalité, puisqu'on recherche la vérité. Je crois que c'est le propre du philosophe, c'est de rechercher la vérité. Parce que si vous recherchiez l'originalité pour l'originalité, soyez plutôt artiste. C'est plus vite fait que de chercher l'originalité pour l'originalité au niveau philosophique. Je crois, c'est mon avis du moins. Vous pouvez ne pas le partager, ça c'est différent. Mais je crois que le philosophe, c'est quand même l'homme qui cherche la vérité. Il cherche tout le temps la vérité. Il ne faut pas l'oublier. La philosophie a commencé par la sagesse. Puis on a eu les amis de la sagesse. Et les amis de la sagesse sont les philosophes. Alors, s'ils ne sont plus les amis de la sagesse, ils ne doivent plus s'appeler philosophes. Parce qu'alors, il y a quelque chose qui ne va plus. Mais s'ils acceptent d'être les amis de la sagesse, ils recherchent toujours ce qu'est pour l'homme la finalité. Et ce que doit être la finalité de l'homme. Ce vers quoi l'homme tend. Ils doivent essayer de découvrir ça de plus en plus. Essayer de redécouvrir pour eux-mêmes, parce qu'au fond c'est toujours une recherche personnelle, la philosophie. C'est l'importance et l'intérêt de la philosophie. Ça ne peut pas être une recherche livresque. Le philosophe doit trouver son laboratoire partout. C'est l'immense avantage du philosophe. Je connaissais comme ça un vieux philosophe bien connu au Canada, et qui n'était pas canadien du reste, qu'il était flamand. Il aimait la bière, en bon flamand. Et alors, il était très. Quand il venait ici à Fribourg, je le connaissais un peu, alors il me disait, dans son année sabbatique, il me disait tout le temps, quand je vais dans les diverses universités, on me demande, quel est le livre que vous êtes en train d'écrire? Alors, il me disait, ça m'agace. Parce que le philosophe n'est pas fait pour écrire, il est fait pour penser. Aujourd'hui, on identifie le philosophe avec son œuvre, alors qu'il est fait pour penser. Alors je leur réponds, je cherche ce que c'est que l'eau. Alors ils me regardent pour un imbécile. Et c'est vrai, je recherche ce que c'est que l'eau. Je n'ai pas encore découvert ce que c'était que l'eau. Quand j'ai très chaud, j'aime de prendre un verre d'eau glacée. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Quel est le rapport entre l'eau et la vie? Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez, au fond, c'est ça le philosophe. Il est en état d'émerveillement, d'admiration vis-à-vis de l'eau. Saint François avait découvert « ma sœur l'eau ». Il était philosophe quand il disait ça. Vous voyez? Et alors, ce philosophe qui cherchait ce que c'était que l'eau, il aurait pu dire « ma sœur l'eau ». Et c'est vrai, parce que s'il dit « ma sœur l'eau », ça prouve qu'il y a une petite connaturalité entre lui et l'eau. L'eau lui est semblable. Et le philosophe, c'est maintenir cette admiration. Je crois que c'est très très important. Dans un monde où il n'y a plus possibilité d'admiration, la philosophie doit être cette recherche constante de retrouver les choses à leur source. Le philosophe essaie de retrouver toujours les choses à leur source. Mais les sources profondes, les sources qui existent dans l'homme, retrouver ce que c'est que la pensée, dans ce qu'elle a de premier, qu'est-ce que c'est que connaître ? Connaître au niveau de la sensibilité, connaître au niveau de l'imagination, connaître au niveau profond de la sagesse. Alors, la recherche constante de ce qu'il y a de premier, de ce qu'il y a à la source, alors, qui maintient l'admiration. On maintient cette admiration en nous, et c'est la chose essentielle pour la philosophie. Celui qui n'a plus aucun sens d'admiration, je crains beaucoup qu'il répète. Et la répétition n'est pas philosophique. Elle n'est pas philosophique. Répéter, c'est très bien. C'est très bien parce qu'il y a des quantités de choses qu'on répète. C'est bien évident. Mais oublier que répéter, c'est quand on ne sait pas quoi faire d'autre. J'allais dire, répéter, c'est quand on s'ennuie. On répète. C'est parce qu'on n'a pas découvert quelque chose de mieux. Mais on cherche, alors on répète, on a le droit de répéter. J'ai parfaitement le droit de dire, Platon a dit ceci, Heidegger a dit ceci, je répète. Tant que vous répétez, vous n'êtes pas arrivé au niveau philosophique. Il faudrait avoir un appareil qui nous purge de toutes nos répétitions. Alors je ne sais pas comment on sortirait de là. On n'aurait peut-être plus rien du tout. On verrait qu'il n'y a plus rien du tout. Toutes les répétitions qu'on a, toutes les choses qu'on a apprises, parce qu'on les a apprises, c'est pas nous. Ça vient de nous. Alors, faisons attention, il ne faut pas les rejeter. Parce qu'on doit apprendre. L'être humain est un être essentiellement éducatif. Je crois. Essentiellement, on écoute, on reçoit. Mais on reçoit et on écoute pour assimiler. Et quand on assimile, ça devient nous. Le vivant reçoit des quantités de choses de son milieu, mais il faut que ce soit assimilé. Vous savez bien, c'est le défaut majeur de notre monde d'aujourd'hui. Je crois que même c'est le défaut le plus fondamental de notre monde d'aujourd'hui. Les économistes le disent. Et quand les économistes disent quelque chose, ça doit représenter quelque chose qui est une donnée qu'on doit reconnaître. Les économistes reconnaissent qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps d'assimiler. Je crois que c'est le signe de notre économie d'aujourd'hui. On n'a plus le temps d'assimiler. Et je crois que c'est vrai dans tous les domaines. Alors, quand on n'a plus le temps d'assimiler, c'est pourquoi ? C'est parce que l'information est trop forte. Il y a trop d'informations aujourd'hui. On est bombardé d'informations. Et alors, ce bombardement d'informations fait qu'on n'a plus le temps d'assimiler. On a tous fait cette petite expérience, ceux qui travaillent une thèse, ceux qui travaillent un mémoire de licence. C'est qu'au point de départ, on a une idée extrêmement claire. Du moins, ça nous semble très clair. On a une intuition. Puis on se met à travailler. On voit qu'il y a des quantités de gens qui ont parlé de ça. On s'informe. Et l'information est très très vaste. Et alors, plus on entre dans l'information, plus ça devient nébuleux. Notre petit germe du point de départ, disparaît complètement. On passe par un tunnel d'information. Parce qu'il y a toujours un tunnel d'information. Alors, il faut passer par là, c'est nécessaire. Mais c'est très difficile et c'est très dangereux parce qu'au bout d'un certain temps, on ne voit plus rien du tout. Et alors, on a oublié ce qui était au début, la source initiale. Alors, je comprends très bien qu'il y a ce phénomène d'aujourd'hui. Il y a des gens qui quittent les villes et qui vont en montagne et qui vont dans les hauts plateaux, qui vont pour revivre leur vie humaine. Ils ont un rejet de la ville. La ville, c'est l'information. C'est le lieu de l'information au point de vue économique, au point de vue information intellectuelle, au point de vue artistique. C'est ça. C'est le lieu où on peut avoir toutes les informations possibles. Quand vous êtes très très loin, à distance, vous ne pouvez plus les avoir. Je comprends très bien ce rejet. Vous voyez, au fond, ce que nous trois voyons, le dilemme de l'écriture, la ville qui devient Babylone et le désert. Enfin, on ne peut pas dire la philosophie, c'est le désert. Pour être philosophe, tournez le dos à la ville, non ? Philosophiquement, bien historiquement, je veux dire, la philosophie est née dans les villes. C'est vrai. Regardez Platon, regardez Aristote, c'est né dans les villes. Et la philosophie se fait toujours un peu dans les villes. Mais on a besoin aussi du désert. On a besoin aussi de s'écarter de cette information qui est trop forte pour réfléchir, pour être soi-même. Alors, voyez, quand l'information est trop grande, il n'y a plus d'assimilation. Qu'est-ce que c'est que penser si ce n'est pas assimiler ? Je crois qu'il y a eu un phénomène d'assimilation qui est nécessaire, qui n'est pas commode à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'assimiler au point de vue de l'esprit ? Et en assimilant au point de vue de l'esprit, comprendre que si ça se fait normalement, il y a un certain repos, il y a un certain regard qui peut se faire après. Le but n'est pas d'assimiler. Le but n'est pas d'assimiler. Le but, c'est de vivre. On doit assimiler pour vivre, pour être pleinement soi-même, pour arriver à prendre l'aliment qui est nécessaire. C'est nécessaire d'assimiler. L'information nous apporte une nourriture. Mais quand la nourriture est trop surabondante, on a tous éprouvé, alors au point de vue de la vie végétative, cette chose terrible, quand vous avez trop mangé, vous ne pouvez plus assimiler, vous rejetez. Phénomène du rejet. C'est ça, on quitte la ville pour aller au désert, vous voyez ? Pour pouvoir jeûner pendant un certain temps et alors de nouveau reprendre. Et au point de vue de la vie, de l'esprit, c'est un peu ça. On a une surabondance de coups. C'est effrayant. Alors on n'arrive plus à assimiler. On a l'impression qu'au bout d'un certain temps, on n'est plus soi-même. Parce qu'on reçoit ces douches d'eau froide, d'eau chaude, douche néoplatonicienne, douche aristotélicienne, douche husserlienne, douche heideggerienne, douche... Alors c'est effrayant, il y a tous les robinets. Venez. Et c'est vrai, c'est le propre de l'université, d'avoir tous les robinets. D'eau chaude, d'eau tiède, tous. Alors au bout d'un certain temps, on en a par-dessus la tête. C'est le cas de le dire. Ça vous tombe dessus. Et alors on désire avoir un tout petit peu de calme, un tout petit peu. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Parce qu'on n'arrive plus à assimiler. Alors là, il faut redécouvrir chacun son rythme propre. C'est très important. Parce que la vie de l'esprit, c'est ça la vie philosophique, c'est la vie de l'esprit. Autrement, c'est plus la peine de faire de philosophie. Si au bout de quelques années de philosophie, on devient bête, c'est effrayant. Ça. Si au bout de quelques années de philosophie, on n'a plus aucune personnalité, on est un rouage au milieu de tout ça. Vous voyez, et on ne peut uniquement nommer les robinets. Est-ce que vous pouvez renommer les robinets ? Oui, vous dites ça, oui, douche heideggerienne, douche husserlienne, douche aristotélicienne, douche néoplatonicienne. Si vous, au bout de quelques années, c'est-à-dire la licence ou le doctorat, on n'a qu'une seule capacité, c'est de nommer les douches. C'est quand même pas le but, hein. Le but, c'est d'arriver à trouver soi-même la démarche philosophique de notre intelligence. C'est pour ça que la remarque du Père Mandonné est si vraie. Nous avons chacun une forme particulière d'intelligence. Nous sommes individualisés jusque dans notre intelligence. Jusque dans notre intelligence. Les plis les plus profonds de notre intelligence impliquent cela. Et quelqu'un de vraiment intelligent est à la fois je crois, quelqu'un qui sait regarder l'autre, mais qui a aussi tout de suite cette marque personnelle qu'il fait, qu'il saisit les choses sous un angle qui lui est propre. Il ne cherche pas que ce soit propre, parce qu'alors ce serait l'originalité pour l'originalité. Mais il découvre quelque chose qui n'a pas encore été dit. Et il y a des quantités de choses qui n'ont pas encore été dites. Il y a des quantités de choses qui ont été dites. Il y a des quantités de répétitions. On le voit très très bien dans l'histoire de la philosophie. Ce serait intéressant, vous voyez, d'intituler un livre d'histoire de la philosophie « L'histoire des répétitions ». Ce serait très 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 intéressant. Et pour essayer de voir à côté, n'est-ce pas, le livre suivant, ce serait « Ce qui reste ». Alors, qu'est-ce qui reste ? Le petit reste, n'est-ce pas ? Et ce serait les miettes. Alors, ce serait les petits restes qui restent, qui seraient les originalités de chacun. Et c'est vrai qu'il y a ça qu'on doit essayer de comprendre personnellement pour nous-mêmes. Alors, au début, c'est bien évident, quand on est au début de sa vie philosophique, on essaie de comprendre un tout petit peu ce qui est dit. Mais il faut en même temps garder le souci de sa propre vie personnelle au point de vue intellectuel. C'est pour ça que le travail personnel est si important. Alors le travail personnel doit toujours compléter les cours, et je dirais que les cours doivent s'achever toujours dans une certaine réflexion personnelle. Il faudrait que chacun d'entre nous puissions avoir notre réflexion personnelle qui nous permette justement de comprendre que ce que nous avons reçu, nous le digérons, nous l'assimilons d'une manière personnelle et individuelle. Ceci, c'est un rappel, parce que c'est important. Et je crois que c'est comme ça que les cours peuvent apporter. Les cours doivent être pour vous un apport qui stimule, qui aide d'aller plus loin. Alors, ou vous êtes d'accord avec ce que dit le professeur, c'est très bien. C'est très bien. Ou vous n'êtes pas d'accord, c'est encore très bien. Mais il ne faut pas être d'accord uniquement affectivement. Il ne faut pas être d'accord uniquement affectivement ou ne pas être d'accord uniquement affectivement. Ce n'est pas philosophique. On doit comprendre pourquoi on est d'accord, pourquoi ça rejoint. Et alors là, on refait soi-même son itinéraire. Le philosophe doit toujours être capable de justifier ce qu'il dit. C'est pas commode. Il doit toujours être capable. Et quand il n'est pas capable de le justifier, alors il s'appuie sur le dire d'un autre philosophe. Mais il sait que c'est une pierre d'attente. Parce que l'autorité est la dernière des raisons au plan philosophique. Donc il doit toujours pouvoir revenir à sa propre expérience, à sa expérience interne ou externe, à sa propre expérience, ou à ses propres intuitions. Et dire, oui, écoutez, j'ai eu cette intuition. Alors on pourra dire, mais votre intuition est fausse, ne construisez pas sur votre intuition. C'est très bien, là on a tout à fait le droit de bagarrer là-dessus, mais on a ses intuitions, on a son expérience. On a sa manière de regarder les choses. Et puis on essaie de comprendre. On essaie de creuser de plus en plus pour arriver à comprendre en profondeur ce qu'est l'homme. À comprendre en profondeur ce que c'est que l'esprit, ce que c'est que le cœur, ce que c'est que notre capacité d'aimer. Notre capacité de saisir. Parce qu'au fond, en définitive, on viendra toujours à l'homme. On le dépassera pour voir justement comment l'homme peut être dépassé et comment l'homme peut tout relativiser. Et donc l'homme, nous le possédons toujours en nous-mêmes. C'est ça qui est merveilleux au point de vue philosophique, c'est que vous avez toujours votre laboratoire avec vous. Vous ne pouvez pas emporter votre bibliothèque toujours avec vous, c'est un peu difficile, c'est un peu trop lourd, mais ce que vous pouvez emporter toujours, c'est votre laboratoire. Et votre laboratoire, c'est votre propre pensée. C'est vous-même qui essayez de réfléchir et de penser. Et toutes les rencontres que vous faites, avec tous les génies de l'humanité, vous permettent de devenir un tout petit peu plus génial. C'est vrai, autant que possible, il vaut mieux fréquenter des génies. Dans la mesure où on le peut. Ne cherchez pas uniquement cela, parce que alors, ça ferait un partage des eaux qui serait pas toujours juste. Mais c'est très vrai que rencontrer un homme génial du côté artistique, rencontrer un homme génial du côté mathématique ou du côté scientifique, c'est toujours intéressant. Ça apporte beaucoup. Bien plus que de consulter un livre. Parce qu'il y a le génie vivant, tandis que le livre, c'est le génie mort. N'est-ce pas ? C'est sûr. C'est le génie mort. Tandis que le génie vivant, vous l'apportez bien plus. Et au fond, c'est ça le propre du philosophe. C'est que le philosophe s'intéresse à tout et doit s'intéresser à tout. Doit garder cette ouverture et cette capacité d'admiration pour essayer de progresser. C'est très intéressant de voir la manière dont un mathématicien regarde son monde. C'est très enrichissant. Ça apporte quelque chose pour le philosophe. Il sait d'autant mieux ce que c'est que sa philosophie. Il comprend d'autant mieux de ce que c'est que la philosophie. Ou quand il rencontre un homme génial au point de vue politique. C'est difficile à rencontrer, ça. Mais ça peut se rencontrer, quand même. Un homme génial au point de vue politique. Ordinairement, c'est à la fin de sa carrière qu'il devient génial. N'est-ce pas ? Parce que quand il est dedans et dans le feu de la politique, c'est difficile. Mais après, il a quand même quelque chose, un peu de recul. Il peut. Et à ce moment-là, c'est intéressant de rencontrer ces gens-là, d'essayer de comprendre. Bon, ceci, c'est pour vous faire comprendre que le travail des cours demande d'être complété par un travail personnel. J'ai déjà dit à beaucoup d'entre vous, faut pas trop s'attarder au cours. Il vaut mieux avoir un travail personnel, qu'on prenne Aristote, qu'on prenne Platon, qu'on prenne Heidegger, qu'on prenne Kant, qu'on prenne... Ça m'est égal, au fond. Le tout, c'est que vous soyez intelligent en travaillant Kant. Que vous soyez intelligent en travaillant Heidegger. Que vous soyez intelligent en travaillant Aristote, que vous soyez intelligent en travaillant Parménide et Platon. Il faut être intelligent. Et être intelligent, c'est justement essayer de recevoir ce qui est à recevoir, de l'assimiler, et de trouver sa propre méthode de travail. Parce que ça, il n'y a pas de méthodologie philosophique, je ne crois pas. Je crois que chacun d'entre nous, nous devons découvrir notre méthode d'être philosophe. Le sentier par où on l'est. Et par où on peut creuser davantage. Ça, c'est ce qui est le plus difficile, du reste. Mais c'est important, parce qu'autrement, on perd beaucoup de temps. Alors, il faut le découvrir progressivement. Et si on se dit, je ne suis pas philosophe du tout, je ne suis pas philosophe du tout, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Très bien. Essayez de trouver un domaine dans lequel il y a un intérêt pour vous. Parce qu'il y a toujours un intérêt humain. Mais l'intérêt est à un niveau différent. Je comprends très bien que l'intérêt peut être à des niveaux très divers. Bon, nous entrerons dans la métaphysique. Bien que beaucoup aujourd'hui rejettent la métaphysique, peu importe le nom, hein. Dites philosophie première, j'aime presque mieux. C'est plus à l'ordre du jour. La métaphysique a été condamnée à disparaître. Alors, très bien, ne ressuscitons pas les morts. Mais regardons à côté du mort la source qu'on n'a pas vue. Et alors, la source qu'on n'a pas vue, c'est la philosophie première. C'est vrai. Je crois que la philosophie qu'on a enterrée est une philosophie que nous enterrons tous. Donc, nous assistons tous à l'enterrement de première classe de la métaphysique. Et puis, nous essayons de découvrir ce qui n'a pas été vu, c'est-à-dire la philosophie première comme philosophie première. Vous voyez, en faisant ça, je ne joue pas sur les mots. Mais j'essaie de comprendre pourquoi a-t-on condamné la métaphysique. Je pense à Heidegger. Je pense d'une certaine manière aussi à Kant. Comment nous avons autour de nous des gens intelligents qui ont condamné la métaphysique. Alors, je ne dis pas cours de métaphysique pour être en opposition et être en réaction contre Heidegger. Non, pas du tout. J'aime Heidegger. J'aime Kant aussi. Moi. Mais j'aime Heidegger. C'est vrai, c'est vrai. J'ai le droit quand même d'avoir des préférences. Enfin, mais si vous lisez ce que je disais tout à l'heure, un livre qui vient de paraître en France, Clavel, voit que lui opte pour Kant, contre Heidegger, en disant Heidegger est génial, mais quand même, il n'a rien compris à Kant. Alors il faut, et alors il critique Heidegger tout le temps, et puis il veut restituer Kant. Ça va faire des petits Kantiens, peut-être derrière Clavel. C'est vrai, il meurt en étant Kantien. Bien heureux de mourir sur sa tombe, de mettre « Je suis un admirateur inconditionné de Kant ». Ça fait partie d'un épitaphe pour immortel, n'est-ce pas ? Mais je n'ai pas cet amour-là, j'avoue. Et le livre de Clavel ne me fait pas aimer Kant plus. Il me fait comprendre que ce n'est pas commode d'entrer dans Kant et qu'il y a beaucoup de portes d'entrée dans Kant. C'est très vrai. C'est des portes multiples et diverses. Mais au fond, pourquoi maintenons-nous la métaphysique, la philosophie première ? C'est parce que nous considérons, du moins je considère, que quand Heidegger condamne la métaphysique, la métaphysique qu'il condamne, je la condamne. C'est une métaphysique très ancienne, c'est très vrai, qui est née, je crois, pleinement et totalement à partir de Suarez. Je crois que c'est la métaphysique de Suarez. On verra ça, c'est intéressant. Parce qu'avec Occam, il n'y a plus de métaphysique. Et il y a quand même un rebondissement de la métaphysique avec Suarez. Et cette métaphysique de Suarez, elle s'est prolongée avec Descartes, et elle s'est prolongée dans Leibniz, et elle s'est prolongée dans Wolff. Et c'est cette métaphysique-là qui est condamnée. Autrement dit, ce que Heidegger condamne, c'est de commencer, du moins de considérer que la métaphysique commence par une idée de l'être. Et alors là, c'est très vrai. Une métaphysique qui commence par une idée de l'être est condamnable. Ce n'est plus une métaphysique. Ou plus exactement, cette métaphysique-là est condamnable. Ce n'est plus la philosophie première. Alors il y a un tournant, et j'insisterai demain là-dessus. Il y a un tournant intéressant à voir, très intéressant à voir, la différence que nous mettons entre ce que peut représenter l'ontologie de Wolff, parce que l'ontologie est née avec Wolff, l'ontologie de Wolff, la métaphysique de Suarez et la philosophie première, ou la philosophie tout court. Mais la philosophie première représente un effort ultime dans la philosophie. Il y a là quelque chose de très important, il faut essayer de le découvrir soi-même. Parce que si on ne le découvre pas soi-même, ça restera toujours. Je crois que c'est important. Autrement, on risque de dire, on maintient un cours de métaphysique parce que c'est traditionnel. C'est horrible ça. C'est horrible de dire ça. Vous comprenez, être traditionnel au point de vue philosophique, ça prouve qu'on est, on est suffisamment bête pour ne plus penser. Vous voyez, alors c'est terrible. On n'est pas traditionnel pour le plaisir d'être traditionnel. Qu'on soit traditionnel en politique, ça passe. Qu'on soit traditionnel en religion, ça passe. Mais pas en philosophie. Parce que la philosophie doit être au-dessus. Il y a des traditions religieuses, je ne crois pas qu'il y ait des traditions philosophiques. Je ne crois pas. Je crois que des traditions philosophiques, c'est parce qu'on n'a pas pensé ce que c'était que la philosophie. Je crois qu'il n'y a pas de tradition philosophique. Il y a des philosophes, alors ceux qui pensent pas assez se mettent à leur ombre. Je suis à l'ombre d'un grand penseur. Ça me permet de me reposer. C'est très bien. Mais être à l'ombre d'un grand penseur, ce n'est pas philosopher. C'est s'intéresser à ce grand penseur. Et c'est devenir le spécialiste de ce grand penseur. C'est peut-être une issue pour trouver une chaire dans une université. Mais c'est pas pensé, ça. C'est une issue d'ordre pratique. Parce que c'est l'issue d'ordre pratique, si vous n'êtes pas spécialiste de tel ou tel, vous n'arriverez jamais. Donc, pour pouvoir... Oui, parce que la pensée n'a pas de chair. Ce qui a des pensées, c'est justement d'être spécialiste de tel ou tel philosophe. Alors, on est historien. Alors, à ce moment-là, c'est très très bien. C'est très bien d'être historien, mais il faut autant que possible dépasser et découvrir ce que doit être la pensée. Alors on essaiera demain de regarder cette métaphysique qu'on a enterrée et qu'on a condamnée, pour ne pas tomber dans cette métaphysique et essayer de redécouvrir un autre chemin, le chemin de la philosophie première. Je donnerai ça demain, vous y penserez, parce qu'il y a un séminaire, hein. Alors le séminaire d'hiver, on a déjà pensé, enfin, certains se sont inscrits, d'autres ne sont pas inscrits, il y a encore des places. Alors on pourra mettre ça demain au choix. On fera circuler ça pendant le cours.